Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux amateurs de Sport Week-end, édition du samedi 2 juin. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On est là jusqu'à 18h30, jusqu'à l'avant-match de l'Impact qui affronte ce soir le Dynamo de Houston. 4 matchs sans marquer, est-ce la fin de cette séquence? En fait, 3 matchs, je ne veux pas aller trop vite. 3 matchs sans marquer du côté de l'Impact de Montréal, est-ce la fin de cette séquence infructueuse à l'attaque? Mais on verra dans ce duel face au Dynamo de Houston. D'ailleurs, on aura l'occasion de parler à Jérémy Filosa dans quelques instants. Vincent Destouches sera avec nous également. On parlera également, je ne sais pas si vous avez vu les images de Johnny Manziel qui a fait ses débuts dans la Ligue canadienne de football dans cette défaite de 36-18 des Tiger Cats Hamilton face aux Argonauts de Toronto. Il a quand même bien fait Johnny Football. Donc, Bruno Eppel sera là pour nous en parler. Également, le hockey est à l'honneur parce que vous savez que ce soir, c'est le match numéro 3 entre Vegas et Washington. Ça se passe du côté de Washington. Benoît Brunet sera là pour nous en parler. On aura la chance de parler également avec l'assistant-entraîneur des Sénateurs d'Ottawa, Martin Raymond, qui sera avec nous. Lui qui sera conférencier lors du 5e colloque hockey de Mortagne. Ça se déroule le 9 juin prochain. Il reste encore des places de disponibles. Écoutez bien, lui, là, il va nous parler des tendances offensives. Et nous, ça se peut qu'on lui parle un petit peu des Sénateurs également. Martin Raymond sera avec nous. Mais pour l'instant, Philippe Quentin s'amène avec nous. Salut Philippe.
Salut Jérémy.
Philippe, écoute, je lisais ce matin ton texte dans la Presse Plus où tu fais une référence entre Zidane, de Zidane jusqu'à Gérard Galland. Philippe, je dois te féliciter. C'est un lien incroyable en disant Zidane, malgré le succès après 3 championnats, décide de quitter son équipe. Un moment donné, il faut renouveler le message et on peut se poser des questions pour Gérard Galland comme on peut se poser des questions chez le Canadien de Montréal également.
Oui, tout à fait. J'ai trouvé que les raisons qui ont été invoquées par Zidane pour démissionner de son poste d'entraîneur-chef, j'ai trouvé les raisons formidables parce qu'elles provoquent une réflexion. Tu as là un entraîneur qui a un succès incroyable. Alors, il arrive en milieu de saison, il gagne la Ligue des champions, puis ces 2 années suivantes où il est là toute l'année, il gagne encore la Ligue des champions. Donc, 2 ans et demi comme entraîneur du Real Madrid, une des équipes les plus prestigieuses au monde. 3 titres majeurs avec la Ligue des champions. C'est la consécration. Je comprends que ça a été peut-être plus difficile dans d'autres compétitions au fil de l'année, notamment dans le championnat espagnol, mais il en reste pas moins que la Ligue des champions. Là, c'est le grand titre européen. Alors, gagner ça, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux. Et là, lui, après 2 ans et demi, 3 titres, il dit « c'est assez ». Il dit « moi, mon message, il passera plus ». Ça prend un nouveau discours pour réussir à tenir l'intérêt des joueurs, pour réussir à aller à ce qui s'améliore puis à ce qui demeure motivé. Et moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, tu sais, souvent, on parle, Jérémy, dans le sport de stabilité. Le Canadien, par exemple, arrête pas de nous dire par la voix de son président, Jeff Monson, que la stabilité, c'est essentiel. Puis on l'a vu avec le Canadien. Michel Therrien, on l'a probablement gardé une année de trop. Et puis Marc Bergevin, on continue de lui faire confiance, même si les résultats n'ont pas été très convaincants depuis 3 ans. Et là, arrive Zidane qui, lui, brise ce modèle-là avec sa déclaration. Même s'il y a du succès, non, moi j'ai l'impression que mon message passe plus, il faut changer. Alors je trouve que ça remet bien des choses en perspective.
Et surtout, on peut se questionner du côté des Golden Knights de Vegas. Cette année, c'est super, mais est-ce qu'on sera capable de poursuivre sur le même message de dévouement et d'humilité du côté de Vegas? C'est un point d'interrogation, là.
Ben, je pense que la réponse, c'est non. Ça serait très étonnant qu'ils réussissent à refaire ça pendant 2 ans ou 3 années consécutives. Puis un gars comme Gérard Galland, on a fait beaucoup le rapprochement avec Jacques Demers, et avec raison, parce que Galland a joué pour Jacques Demers. Les deux avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et là, on voit que Galland, c'est un gars qui est proche de ses joueurs, qui est très bon, qui sanctionne pas les erreurs de façon démesurée, qui fait confiance. Moi, il me rappelle beaucoup dans son approche, il me rappelle beaucoup Jacques Demers. Et souviens-toi, Jacques Demers, sa première année avec le Canadien en 1992-93, il est arrivé avec un discours axé sur le positivisme qui faisait une rupture incroyable avec Pat Burns, parce que Burns, à la fin, avec le Canadien, c'était terrible. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. C'était un régime étouffant. Les joueurs étaient malheureux. Ça a été vraiment une année très, très dure pour le Canadien, la dernière de Burns. Alors là, Demers offre un contraste tout à fait saisissant avec un discours axé sur l'ouverture. Le Canadien l'emporte. On était prêt à recevoir ce message-là chez le Canadien. Ça faisait un grand changement. Mais ça n'a pas duré éternellement. 3 ou 4 ans plus tard, Jacques Demers, lui aussi, il a perdu son emploi. Le discours avec ce groupe-là ne fonctionnait plus. Et là, Gérard Galland, lui, arrive avec un groupe où tous les joueurs ont besoin d'un nouveau discours parce que tous, ça ne devait pas aller trop, trop bien avec leur équipe de l'an dernier puisqu'ils n'ont pas protégé. Alors, voilà un groupe qui est très réceptif à l'approche de Galant. Mais encore une fois, combien de temps ça va durer, ça, je ne sais pas. Mais je ne suis pas inquiet pour Galant. Parce qu'il y aura toujours une équipe qui va être prête à prendre une chance avec un gars comme lui. Parce que, manifestement, quand il arrive dans une équipe, il fait une différence. Alors, donc, il va incarner le renouveau, lui, sans doute avec d'autres équipes plus tard dans sa carrière. C'est assez intéressant quand on pense à ça.
Sauf que quand même, les entraîneurs qui ont trouvé le moyen, et c'est peut-être pour ça qu'on comprend davantage pourquoi les entraîneurs adjoints bougent beaucoup maintenant dans la Ligue nationale. On veut modifier le message, mais si on prend les Pete LaViolette avec Nashville, on est capable, année après année, quand même, de maintenir une certaine forme de succès, mais on arrive à changer le message occasionnellement.
Oui, c'est ça. Mais regarde, prends les entraîneurs aujourd'hui dans la Ligue nationale. Ils ont tellement travaillé pour plusieurs équipes, la plupart d'entre eux. Tu prends Pete LaViolette, c'est pas sa première équipe. Nashville, Paul Maurice, Winnipeg, c'est pas sa première équipe. Barry Trotz, c'est pas sa première équipe. Gérard Gallant non plus. Claude Julien non plus. Mike Babcock non plus. John Tortorella non plus. Tu sais, il y a tellement d'entraîneurs qui font la tournée des clubs parce que, justement, ils arrivent avec une cote de crédibilité parce qu'ils ont obtenu des résultats. Même s'ils n'ont pas toujours gagné la Coupe Stanley, ils ont obtenu des résultats convaincants. Alors, ils ont tout le temps une chance avec une autre organisation. On en voit, par contre, des équipes qui vont avec des entraîneurs qui ont moins d'expérience ou qui n'ont pas d'expérience dans la Ligue nationale. Et puis, qui vont décider d'y aller, prendre les Rangers de New York, qui sont allés chercher un entraîneur pour la saison prochaine des collèges américains. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est intéressant de voir l'approche de chaque équipe. Mais tout ça, par exemple, je pense, puis si on veut boucler la boucle avec Zidane, je pense que essentiellement, il a dit une grande vérité, Zinedine Zidane. Il a dit que la durée, il nous a rappelé que la durée de vie d'un coach, avec la même équipe, ça ne limite, que tout à coup, le discours, le message ne passe plus. Il faut un changement. Et c'est vrai pour les équipes qui gagnent pas, puis c'est vrai pour les équipes qui gagnent aussi. Puis je pense que ce qu'il y a de nouveau dans ce qu'il nous dit, c'est justement ça, que même les équipes qui gagnent, comme la sienne, comme le Real Madrid, a besoin tout à coup d'entendre un nouveau discours. Et lui, il arrive, il fait ce constat-là et il dit « Merci, bonsoir, je m'en vais, c'est assez. » C'est une nouvelle sensationnelle.
Philippe, avant qu'on se parle de l'impact qu'affronte ce soir le Dynamo de Houston, je veux juste prendre quelques instants pour te parler du match numéro 3 entre les Capitals de Washington et Vegas. Est-ce que tu sens que c'est la première fois qu'il y a un peu d'adversité pour Vegas depuis le début des séries?
Non, je pense qu'ils ont eu beaucoup d'adversité depuis le début de la série, mais ils ont toujours très bien répondu. Là, la question, c'est plutôt comment vont-ils répondre cette fois-là? Est-ce qu'ils sont à court de miracles ou ils en ont encore quelques-uns dans leur sac? Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé leur performance depuis le début de cette finale-là peut-être un petit peu moins convaincante, même s'ils ont gagné le premier match. Ils ont bien fait dans le premier match, mais j'ai trouvé qu'ils accordent quand même des chances de marquer. Puis ça a été peut-être un peu plus difficile. Et je me demande jusqu'à un certain point si ils ont encore cette capacité de rebondir. Ça va dépendre beaucoup des Capitals et de Kuznetsov. Est-ce qu'il va jouer ce soir? Dans le moment, on sait qu'il s'est entraîné ce matin. Je lisais les articles en provenance de Washington tantôt, Jérémy, puis il y a des gens qui disent oui, il était là, il était de bonne humeur, il a parlé aux journalistes après l'entraînement. Mais certains disaient qu'il avait l'air à grimacer pendant l'entraînement quand il lançait, puis qu'il avait peut-être pas la dextérité habituelle en maniant la rondelle. Mais ça, bon, on verra bien. Mais c'est sûr que s'il est là, c'est un atout incroyable pour les Capitals. Et moi, je pense qu'avec Ovechkin, qui a cette chance absolument incroyable de remporter la Coupe Stanley, peut-être que c'est une chance qui ne se représentera pas pour lui. Il a déjà 32 ans. Les Capitals ont une bonne équipe, mais je pense pas qu'on peut dire que c'est une équipe qui est automatiquement en finale de la Coupe Stanley à chaque année là, pour les 3 ou 4 prochaines années. Je pense que ça serait complètement excessif de dire ça. Il y a d'autres très bonnes équipes dans la Ligue. Alors, il faut qu'ils profitent de leur chance et j'ai l'impression que Ovechkin est au courant et qu'il va nous donner tout un spectacle dans les deux prochains matchs devant ces parties-là.
Philippe, écoute, offensivement, c'est pas le Pérou du côté de l'Impact de Montréal qui va affronter ce soir le Dynamo de Houston. 4 matchs sans marquer de but. Écoute, c'est très difficile à l'attaque. Ça met beaucoup de pression sur tout le monde. Et là, on a vu au courant des dernières semaines, ça fait sortir le méchant à gauche et à droite. Est-ce que tu penses que cette séquence négative va s'arrêter aujourd'hui?
Oh, je sais pas. L'Impact semble-t-il a bien pratiqué cette semaine après une session qui a été un peu plus orageuse mardi, là, après les commentaires de Rémi Garde où il a dit après le match du week-end dernier que l'équipe manquait de talent. Moi, je pense que ce sont des commentaires qu'un entraîneur prend un risque énorme en disant des choses comme celle-là. Imagine, là, tu joues pour lui, là, c'est ton coach, là. Tu fais partie du groupe, puis tu essaies de t'en sortir, puis là, tu apprends que ton entraîneur après un match, ben, dit plutôt, au fond, c'est assez simple, on n'a pas assez de talent. T'sais, c'est dur de pas le prendre personnel. Puis là, tu dis, coudonc, est-ce qu'on veut se battre pour cet entraîneur-là? Peut-être que son constat est juste, mais il y a peut-être une façon de dire les choses. Et là, ce que je trouve qui est quand même assez particulier de la part de l'Impact, c'est que l'Impact, tu sais, bravo pour la transparence, puis bravo pour dire les choses comme Monsieur Saputo les sent, puis comme Rémi Garde les sent. Mais tu sais, il en reste pour moi que tu envoies un drôle de message aux fans. Joey Saputo nous dit essentiellement que ça a été une erreur de donner 6 millions ou à peu près à Piatti, qu'on serait peut-être mieux avec 3 joueurs à 2 millions plutôt qu'un joueur à 6 millions. Alors là, tu te dis, coudonc, ça veut dire que lui, il fait pas la job, puis que le président, le propriétaire est en train de nous dire que ça a été une erreur. Ça donne une drôle d'idée, là, dire ça de son joueur vedette. Et après ça, l'entraîneur qui dit, ben, on n'a pas assez de talent dans l'équipe. Puis là, après ça, t'as le service du marketing qui dit, hey, mesdames et messieurs, venez acheter des billets, là, on offre tout ça un spectacle, nous autres, au Stade Saputo. Tu sais, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Là. Il y a une adéquation qui n'est pas au rendez-vous. Alors, l'Impact ne sert pas très bien sa cause. Ça me rappelle un peu, tu sais, juste pour faire une comparaison, à l'époque avec les expos au début des années 90, là, bien avant la vente de feu, ou même dans ce temps-là, puis après, puis un petit peu avant, quand ils avaient beaucoup de misère à attirer des grosses foules au Stade olympique, c'est sûr que l'organisation n'arrêtait pas de dire que c'était un mauvais stade de baseball. Le Stade olympique, il voulait construire un nouveau stade au centre-ville. Fait que le meilleur moyen qu'il y avait pour vendre cette idée-là, c'est de dire que le Stade olympique, c'est un mauvais stade. Mais à force de dire que le Stade olympique, c'est un mauvais stade, tu dis aux fans de ne pas venir. Donc, c'est tellement plate d'aller au Stade olympique. Venez pas, tu sais, attendez le stade au centre-ville. Alors, je pense qu'il faut que tu sois très prudent dans ta communication quand tu es une équipe de sport. Et je trouve que dans les deux dernières semaines, l'Impact a joué un jeu extrêmement dangereux. Encore une fois, moi, en tant que journaliste, tu sais, je dis bravo, c'est le fun quand les organisations s'expriment, puis que c'est pas la langue de bois, puis que Joey Saputo va au micro après un match, puis il dit vraiment ce qu'il pense, puis que Rémi Garde, c'est la même chose après une défaite, il parle avec son cœur. Mais tu te dis, coudonc, là, c'est quoi la ligne directrice dans cette organisation-là? Parce que quand tu penses aux répercussions de ces propos-là, tu te places dans la peau du fan, tu te dis, coudonc, moi, il m'avait dit que Piatti, c'était tout un joueur, puis qu'il fallait le garder, puis qu'il méritait son 5-6 millions, il méritait d'être payé comme un des 5-6 meilleurs. Puis là, 6 mois après, on me dit, ben non, finalement, ça a été une erreur. Puis là, on est allé chercher des joueurs, on ne les connaissait pas. Silva, Taider, ils m'ont dit que c'était des très bons joueurs qui allaient aider l'Impact. Puis 2 mois après, ils me disent qu'on n'a pas assez de talent dans l'équipe. Tu sais, ça devient confondant pour les gens, là. Alors, tu sais, l'Impact, là, il va falloir qu'ils pensent un petit peu à tout ça, à cette façon dont ils mènent leur communication qui m'apparaît pour le moins brouillonne à l'heure actuelle.
Mais la meilleure des choses, souvent, c'est de faire quelque chose de bien simple, c'est-à-dire gagne. Et quand tu es capable de gagner un match, je pense que ça enlève un paquet de problèmes. Philippe Quentin, je te dis un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir. Bonne fin d'après-midi, Jérémy.
Merci, au revoir, Philippe Quentin, qui nous parlait, entre autres, de ce match numéro 3, ce soir, finale entre les Capitals de Washington et les Golden Knights de Vegas. On s'arrête. On a parlé. L'Impact doit briser cette séquence très, très piètre séquence offensive. En affrontant ce soir le Dynamo de Houston, il sera à la description de ce match. Jérémy Filosa est avec nous.